Radio Okapi. Oh, Okapi.
Rien n'est encore acquis pour une rentrée scolaire apaisée dans les territoires des Massissi et Rutshuru au Nord Kivu. Les enseignants toujours impayés gardent les yeux rivés sur le gouvernement dans l'espoir d'une solution à leur situation. Toutefois, ils seront en classe dès lundi pour une période d'observation de quelques jours. La milice Codeco continue de se rendre tristement célèbre dans la province de l'Ituri. Elle vient de prendre en otage une dizaine de personnes au village de Pitso, dans le territoire de Djougou. Les otages sont les passagers d'un véhicule à partance pour Bounia. Notre invitée est Nicole Messou de la Division provinciale des affaires sociales du Nord Kivu. Elle nous parlera de l'impact du programme Bana Éducation, un programme de Radio Okapi qui vise l'éducation des enfants. Pour commencer cette édition, à la veille de la rentrée scolaire, l'incertitude plane toujours sur le retour des élèves à l'école dans les territoires des Massissi et Rutshuru. Les syndicats des enseignants multiplient les réunions et posent des préalables au gouvernement. Ils affirment toutefois être prêts à accompagner les élèves durant les deux premières semaines. Passé ces délais de 14 jours, si leurs arriérés de salaire ne sont pas payés, ils menacent de suspendre les cours. C'est ce qu'a déclaré l'intersyndicale des enseignants Force syndicale nationale FOSINAT, active dans les territoires des Massissi, Rutshuru, voire Nyiragongo. Exaucé Bandou est joint par Denise Loukesso.
En tout cas, c'est une désolation très grave. Car un agent de l'État, comme un enseignant formateur de toute une nation, manque un cahier, l'uniforme de son enfant. C'est une honte. Nous vous avons alerté à maintes reprises que la Caritas ne veut pas nous payer. Ça fait plus de 5 mois maintenant. Aucune personne du gouvernement qui s'est impliquée pour que les enseignants du territoire des Massifs et ceux de retour soient payés. Nous serons à l'école parce que ce sont nos enfants que nous irons enseigner. Mais nous avons donné 2 semaines. Dans ces 2 semaines, si rien ne sera pas fait pour terminer tous nos arriérés et d'office, nous allons suspendre toutes les activités dans toutes les écoles. Et nous ne irons qu'à l'école les jours où vous nous payerez tous nos arriérés. On en a marre. La ministre de l'Éducation, elle est informée de notre mécontentement. Mais elle ne veut pas s'impliquer. Nous avons demandé qu'on nous fait quitter à la Caritas. On vient de donner 2 semaines. Nous irons à l'école pour enseigner nos enfants. Aucun enfant du membre du gouvernement qui étudie ici en RDC. Voilà pourquoi vous vous taisez, vous ne voulez pas vous impliquer.
Bonne nouvelle pour les élèves orphelins et vulnérables de Mbujimayi au Kasaï oriental. À marge de la rentrée scolaire prévue ce lundi, 212 d'entre eux ont bénéficié samedi des kits scolaires offerts par l'organisation non gouvernementale Juka Utente avec le soutien de la Fondation Rêve Congo du Canada. La cérémonie de remise est tenue dans les locaux des Caritas Mbujimayi en présence d'un représentant des Rêve Congo et de plusieurs responsables d'orphelinats et de familles d'accueil. Esther Ndalafina a couvert pour nous cette activité.
Ces élèves bénéficiaires des kits scolaires vivent dans des orphelinats et d'autres dans des familles d'accueil. Élisée Bilonda énumère ce qu'elle a reçu.
J'ai reçu des uniformes, les kits, la mallette, même des cahiers. Je remercie la Fondation Rêve Congo du Canada.
En plus des fournitures scolaires, quelques orphelins ont également bénéficié des fonds des personnes de bonne volonté vivant au Canada. Bien avant cette remise, les orphelins et enfants vulnérables ont bénéficié la semaine dernière de 20 kilos de farine de maïs, comme l'indique ici Florence Mukundi.
J'avais reçu 5 mégas de maïs. Aujourd'hui, je suis venue prendre les kits scolaires.
Le coordonnateur national de Juka Utente, M. l'abbé Paul Mbouyi, invite les bénéficiaires
à doubler d'efforts pour obtenir le pourcentage encourageant.
M. l'abbé Jean-Paul Ngeleka de l'ONG Rêve Congo du Canada a abondé dans le même sens.
Que tout le monde fasse des bons points. Ça va encourager les membres du conseil d'administration des Rêve Congo.
Signalons qu'après cette cérémonie, tous les enfants ont été conviés à un repas copieux au siège de l'ONG Juka Utente dans la commune de la Kanchi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Merci de nous suivre en Mbujimayi. Cette fois-ci, nous prenons la direction de Lubumbashi où l'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale Okatanga 1 mobilise les inspecteurs chefs de poule du primaire et du secondaire pour une rentrée scolaire sereine. sereine et inclusive. C'était au cours d'une rencontre avec ses inspecteurs qui s'est tenue. Nous sommes samedi au complexe scolaire Kiwele. L'inspecteur principal leur a rappelé les rôles qu'ils doivent jouer pour le bon fonctionnement de l'enseignement. Le point avec Paulin Munanga.
L'inspecteur principal provincial de l'éducation nationale au Katanga 1 a, au cours de cette rencontre, insisté notamment sur le strict respect du calendrier scolaire. Nicolas Nyange a fait savoir que le calendrier est une planification de l'année en période trimestre et semestre. Il fixe également les dates des évaluations formatives et certificatives qu'il faut respecter. Il a rappelé qu'un inspecteur de l'enseignement est l'œil et l'oreille de l'État dans les sous-secteurs de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Pour cela, il doit se rassurer de la présence du personnel enseignant, administratif, technique et ouvrier. L'IPP a insisté sur le fait qu'un inspecteur itinérant devra également se rassurer de l'assainissement de l'environnement de chaque école, des salles de classe et des installations hygiéniques. Tous les inspecteurs itinérants sont appelés à se déployer dans les écoles dès ce lundi et communiquer les effectifs de la rentrée aux adjoints de l'IPP, chargés du primaire et du secondaire pour être centralisés et transmis à la hiérarchie par l'inspecteur. Inspecteur principal provincial de l'éducation nationale au Katanga 1. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Nous partons à Bunia où les commissariats urbains de la police de cette entité rassurent la population quant au maintien de l'ordre public à l'occasion de la rentrée scolaire prévue, c'est lundi 1er septembre 2025. Dans un communiqué officiel publié samedi, la police affirme avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école en toute sécurité. Elle appelle toutefois à la collaboration de tous, notamment des parents et des motocyclistes, avec les agents de la police des circulations routières PCR. Le colonel Abeli Mwangu explique au micro des Martial Kiza Biamungu.
La police donne des recommandations ci-après aux parents de bien vouloir accompagner leurs enfants élèves jusqu'aux écoles, de bien vouloir les confier à des personnes sûres en aller comme au retour. Aux motocyclistes, le respect strict des dispositions du nouveau code de la route, de ne pas transporter plus d'un enfant sur une moto, de ne pas conduire à l'état d'ivresse. Et enfin, le port des casques de protection et des gilets est obligatoire. Aux agents qualifiés de la police et de circulation routière, faire respecter les nouveaux codes de la route. Deuxièmement, observer une courtoisie routière pendant cette période de la rentrée scolaire pour faciliter les enfants, de ne pas céder aux provocations, éviter de tracasser les motocyclistes transportant les écoliers, accompagner les élèves lors de la traversée de la voie publique pour éviter des accidents de circulation routière.
Clôturons ces chapitres consacrés à la rentrée scolaire 2025-2026. Alors que les écoles s'apprêtent à accueillir les élèves pour le début de la nouvelle année scolaire, ce n'est pas le cas de l'Institut du BAS ou Bureau africain des sciences de l'éducation. Cette unité de l'Institut africain de l'éducation pour le développement, un projet expérimental considéré comme patrimoine de l'Union africaine et scellé par la police depuis le 20 août dernier, nous sommes à Kisangani. Les personnels de l'établissement, les parents et les élèves protestent et ont saisi l'autorité provinciale afin d'obtenir sa réouverture. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Dans leur mémorandum déposé au cabinet du gouverneur de province, le personnel du BAS dénonce une mesure tendant à nuire et impacter négativement l'avenir des enfants de la Tchopo. Le seul âge de leur école compromet également le droit fondamental à l'éducation tel que garanti par la Constitution, peut-on lire dans ce document. Comment et pourquoi est-on arrivé à sceller cette école? Le 20 août dernier, alors qu'il était en pleine inscription des élèves, vers 8h30, le préfet des études a vu débarquer une jeep de la police. Toute affaire cessante, il est conduit à la brigade judiciaire où il passera quelques heures avant d'être acheminé au parquet général. Après avoir été verbalisé, Luc Ngongo sera relâché à 21h. Le scellage de son école serait commandité par un groupe d'anciens du BAS qui avait obtenu un arrêté de cession du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en mars 2018 après leur licenciement. Cet arrêté a été dénoncé par le représentant spécial de l'Union africaine en 2018 et tout récemment, le 21 août dernier, ses correspondances adressées au ministre des avec copie au gouverneur des provinces, rappelle que l'Institut du BAS, bien qu'implanté à Kisangani, appartient bel et bien au patrimoine de l'Union africaine et donc ne peut faire l'objet de spoliation. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
13h10 à Pitso, nous sommes à Ituri. Dans cette province, 16 personnes ont été prises en otage samedi par des éléments incontrôlés de la milice Codeco au village Pitso, dans les territoires de Djougou. Selon des sources sécuritaires, les victimes s'est trouvées à bord d'un véhicule en provenance du marché des Boulets à destination de Bounia. Déjà, deux voix s'élèvent pour exiger leur libération, explique ici Martial Kizabiamungu, notre reporter.
C'est vers 16h locale qu'un véhicule à provenance du marché des Boulets est tombé dans une embuscade des éléments réfracteurs de la Codeco au niveau des Pizzo sur la route nationale numéro 27. À bord, 16 personnes, des sacs de maïs, haricots et pommes de terre. Selon des sources sécuritaires, ces personnes ont d'abord subi des actes de torture et menaces de mort avant d'essayer voir intimer l'ordre du descendre du véhicule. Les assaillants ont tiré plusieurs coups de feu en l'air pour créer la psychose, puis ont pillé tous les biens des passagers qu'ils ont pris en otage par la suite. Alerté, le chef du groupement Pizzo est intervenu et a réussi à obtenir la libération des trois enfants âgés de 4 à 12 ans. Contacté, Justin Goudza, le chef du secteur de Djati, assure que des transactions sont toujours en cours pour la libération des autres otages. C'est la première attaque de ce genre sur la RN27 après une accalmie depuis 10 semaines. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Braquage dans la nuit de vendredi à samedi à l'agence Soficom de Kalemie. Selon plusieurs sources concordantes, des hommes armés non autrement identifiés ont fait irruption dans l'établissement et abattu froidement un policier des gardes. Ils se sont par la suite emparés d'une importante somme d'argent avant de disparaître dans la nature, rapporte la même source. Alertés, les autorités se sont rendues sur les lieux pour faire les constats. La police a ouvert une enquête. Au Nord Kivu, dans les territoires de Massissi, des dizaines de femmes retournées du groupement Kamuronza bénéficient d'un projet de formation en coupe et couture, vannerie, pâtisserie et gestion financière. Mise en œuvre par l'organisation locale Union des femmes de Massissi, Moumama, et financée par les HCR, ces projets à impact rapide visent à soutenir le relèvement socio-économique de ces femmes. Après avoir passé de longs mois dans les camps de déplacés autour de Goma, elles tentent de reconstruire leur vie. Comment les femmes retournées apprécient tels ces projets? La réponse est dans cet élément de Rosalie Zawadi.
À Sakié, à 27 km à l'ouest de Goma, des dizaines de femmes se retrouvent chaque matin sur les sites du projet. En attendant de pouvoir retourner au champ, elles sont déterminées à apprendre un métier pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Parmi elles, Mariam Bandukubuya, qui participe aux formations depuis quelques semaines. Elle a déjà acquis des compétences en vannerie et explique ce matin sa grande motivation à terminer son panier multicolore.
Si je tisse deux ou trois paniers, je peux les vendre et avoir de quoi manger à la maison et les restes de l'argent. J'achète du matériel pour poursuivre ce travail. Et mes enfants continuent à vivre ainsi. Depuis que nous avons quitté les camps de déplacés, nous ne sommes pas encore heureuses car nous n'allons pas aux champs alors que notre vie, c'est les champs. Même celles qui font le commerce n'ont plus de capital de démarrage. Voilà ce que nous vivons ici à Sakié.
Ces femmes ont reçu vendredi la visite du haut commissaire du HCR. Elles ont partagé avec lui leur souhait de voir une paix durable s'installer dans leur région pour pouvoir enfin reconstruire leur vie sans peur de l'insécurité. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Des milliers d'Australiens ont participé ce dimanche à des rassemblements anti-immigration à travers les pays que le mouvement des centre-gauche a condamné, affirmant qu'ils cherchaient à propager la haine et étaient liés aux néo-nazis. Des rassemblements de la marche pour l'Australie contre l'immigration ont eu lieu à Sydney et dans d'autres capitales d'État et centres régionaux. Dans cette partie, les groupes qui organisaient la manifestation s'est dit également préoccupés par la culture, les salaires, la circulation, les logements et l'approvisionnement en eau, la destruction de l'environnement, les infrastructures, la criminalité et la perte de membres de la communauté. L'Australie, où une personne sur deux est née à l'étranger ou un parent est né à l'étranger, est confronté à une montée de l'extrémisme de droite, notamment à des manifestations des néo-nazis.
L'invité.
Au Nord Kivu, quelques milliers d'élèves finalistes du cycle des centres de rattrapage ont réussi avec succès aux épreuves nationales de fin des cycles primaires ENAFEP 2025. Cela, c'est grâce aux autres leçons du programme Bana Éducation diffusé chaque semaine sur Radio Okapi. C'est comme en témoigne un cadre de la division provinciale des affaires sociales du Nord Kivu. Nicole Messou, que nous recevons ici comme invitée, affirme que ces leçons ont un apport important dans la préparation qui est dans la réussite des élèves aux examens de l'ENAFEP et TENASOSP. Suivons ces témoignages dans cet entretien qu'elle a accordé à Bernard Nyangui.
Madame Nicole Messou, bonjour.
Bonjour.
Il y a les leçons qui passent sur la chaîne Radio Okapi, Bana, Éducation. Est-ce que ces leçons-là vous ont été d'une certaine aide dans les préparations des élèves à l'ENAFEP qui est passée?
Oui, les leçons-là, comme c'était connecté directement avec les éducateurs de ces apprenants, parce que nous sommes dans l'éducation non formelle où nous organisons les centres de rattrapage scolaire.
Ça veut dire quoi, éducation non formelle?
Bon, éducation non formelle, c'est un sous-secteur de l'éducation qui œuvre en faveur des enfants qui présentent un retard de scolarisation. Maintenant, nous avons une spécificité parce que ces enfants-là qui ont dépassé l'âge d'aller à l'école formelle, ces enfants sont récupérés pendant 3 ans au lieu de 6 ans de cycle primaire. Et dans 3 ans-là, ils présentent aussi les épreuves de fin d'études primaires ou les examens de fin d'études primaires. Et à cela, on y a ajouté les niveaux 4 qui représentent 7e et 8e année de l'éducation de base. Ils participent au TENASOS. Maintenant, avec ces cours ici scriptés déjà qui passaient à la radio Okapi, ça nous a aidé parce que les éducateurs suivaient avec les apprenants dans la salle de classe parfois, sauf pendant les heures que ces enfants suivaient à la maison. Là, on ne sait pas comment vraiment mesurer l'impact parce qu'on ne sait pas, peut-être les enfants n'ont pas suivi, peut-être ils ont joué, là, on ne sait pas. Mais pendant le moment où ça passait dans la salle de classe, les enfants suivaient.
Okay. Et puis, à la fin, les résultats sont sortis comment?
Oui, d'habitude, nous avons des bons résultats. C'est un programme, je dis, condensé pour les niveaux. Et ce programme national-là aide beaucoup les enfants à apprendre. Et nous avons des outils supplémentaires comme les livres, les modules que nous complétons aussi pour leur formation.
Et dans cette juridiction-ci, il y a à peu près combien de centres de rattrapage? Et avec un effectif de combien d'élèves d'après-midi?
Pour toute la province, nous avons 218 centres pour le moment, mais c'était même 230. Et avec l'effectif de 45 600 apprenants. Ça, c'est pour cette année scolaire qui vient de terminer, si on peut dire l'année passée, parce que nous préparons déjà la rentrée scolaire. Oui, il y avait l'effectif là. Et parmi l'effectif là, il y a 30% des enfants finalistes. Pour les épreuves qui viennent de passer ici, ces enfants avaient réussi, il y a 97% de réussite.
Maintenant, comment vous utilisez ou vous exploitez les outils ou bien ces leçons-là pour que cela atteigne les apprenants, surtout ceux qui sont dans des zones où peut-être ceux qui n'ont pas accès à la radio?
Bon, pour ceux qui n'ont pas accès à la radio, c'est aussi un sujet de plaidoyer. Souvent, s'il y a des leçons pareilles qui passent à travers la radio, nous enregistrons ces leçons et puis ils utilisent là-bas avec le flash disque et poste radio. Ils utilisent dans des salles de classe parce que c'est bien planifié dans la grille horaire. Ils mettent aussi l'espace pour suivre ces leçons-là parce que c'est un complément avec les cours qu'ils suivent chaque fois dans des salles de classe.
Et qu'est-ce que vous pensez qui devrait être amélioré ou qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'on améliore encore davantage l'impact de ce programme?
Oui, pour améliorer l'impact de ce programme, c'est un plaidoyer. Il serait souhaitable de plaider pour que les centres aient les outils qui pouvant les aider à enregistrer des leçons et commencer à mettre sur flash, comme j'avais dit. Parce que ce n'est pas à tous les niveaux où on est à mesure de suivre la radio ou soit se connecter à la radio Okapi. Maintenant, dans ces milieux pareils là pour que ces enfants là soient aussi à jour, on utilise le poste radio et flash disque, ça aide aussi. Mais aussi il faut organiser des suivis réguliers, de descendre sur terrain pour aller voir réellement si vraiment il y a impact positif par rapport aux leçons que les enfants sont en train de suivre.
Madame Nicole Messou, merci.
Je vous remercie également.
C'est la fin de ce journal que vous avez suivi dans le village de Turunga. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo. Journal coordonné par Jean Gandou, mise en onde Jean-Claude Onciala, présentation Ronéline Tibonera Idi Amin, et qui vous souhaite de passer une très belle journée dominicale.